mission dans quelques instants, j'arrive en garde corps le terminus de notre train. Changement pour la direction de Paris-Saint-Lazare, départ à 9h59, voie G. Changement également pour la direction de Rouen-Rive-Droite par autocar, départ à 10h10. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place.
Bonjour à vous, chères lectrices et chers lecteurs de Paroles d'élus. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de Vendredi ou la Ville Durable, une toute nouvelle série de podcasts qui vous donnera rendez-vous régulièrement, comme son nom l'indique, le vendredi, pour nous immerger ensemble dans un territoire où il fait bon vivre. Comme vous avez pu l'entendre, c'est à Caen, capitale normande de 107 000 habitants, au sein d'une agglomération de 270 000 habitants, que nous nous rendons. Pourquoi commencer par Caen? Tout simplement parce que c'est un territoire tourné vers l'avenir, et comme nous allons le découvrir ensemble, en pleine mutation. Pour commencer notre périple, nous nous rendons sur ce qu'on appelle communément la presqu'île, un vestige de l'âge d'or du passé industriel au portuaire de trois communes voisines, à savoir Caen, Hérouville-Saint-Clair et Mondeville. Depuis 2007, les collectivités ont entamé une démarche de reconquête urbaine de ces 300 hectares de friches, situés à quelques minutes à pied seulement de la gare. Et surplombant le canal, on y trouve un lieu complètement atypique, mêlant culture et science, connu sous le nom de Dôme. Nous y avons rendez-vous avec son directeur, Bruno Desseur.
On peut peut-être recommencer par une petite présentation de qui vous êtes peut-être et où est-ce qu'on est ici, parce que du coup on est pour venir au Dôme, c'est ce que je comprends bien, il faut prendre de la hauteur.
Ok, donc je m'appelle Bruno Desseur, je suis le directeur du Dôme. Le Dôme c'est un lieu culturel, un centre culturel qui s'intéresse aux questions scientifiques et technologiques. Il y en a un peu dans toutes les régions de France et la particularité du lieu que nous on a c'est que c'est un lieu qui est tout en hauteur, donc c'est un bâtiment de 30 mètres de haut qui peut apparaître comme un bâtiment relativement vide à l'intérieur parce qu'il est très très modulaire et il accueille des choses extrêmement différentes tout au long de l'année. Les gens qui connaissent Caen savent qu'il y a 5-6 ans ici, il n'y avait rien. On était dans une zone qui était restée pendant 20 ans complètement immobile. Et là, il y a une accélération extrêmement forte. Il se trouve que les collectivités ont fait le choix d'implanter ici des lieux culturels importants. Il y a une espèce d'hyperconcentration. Et donc, nous qui sommes les professionnels dans ces lieux, on essaie de se mettre en réseau pour que ça produise quelque chose d'un peu exceptionnel. On va avoir un éco-quartier qui va sortir de terre dans les années qui viennent, juste derrière nous. Et moi, c'est ce qui m'amuse ici, c'est que finalement, on est sur un territoire, on parle tout le temps des territoires en transition. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans un territoire en transition, post-industriel, post-portuaire, laissé quasiment à l'abandon pendant 20 ans. Et là, une hyper accélération de la réurbanisation de ce quartier. Donc si on peut contribuer à en faire un quartier différent en termes de transition dans tous les sens du terme, y compris inclusif, etc., ben ça nous motive bien. Ouais.
Quand on parle public et science, il y a différentes manières de l'aborder. Vous, si j'ai bien compris, c'est plutôt d'engager la population dans des projets très concrets.
Oui, on pourrait dire qu'on est un lieu d'atelier. C'est notre façon de parler de recherche et de parler de technologie. Donc on ne va pas être tellement dans la didactique des sciences, on va être beaucoup plus dans le fait de faire des sciences et de la recherche directement par les personnes. Et donc Léon qui est en face de nous, c'est un drone aquatique qui a été imaginé par des publics. On faisait réfléchir à la question de l'alternative autour de l'hydrogène par rapport à la transition énergétique. Et on leur a dit, si vous voulez, on peut fabriquer quelque chose qui marche à l'hydrogène. Par contre, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. C'est vous qui allez réfléchir à ça. Ils ont rencontré plein de spécialistes. Il y a eu plus de 600 personnes qui se sont investies en tout dans ce projet autour de l'hydrogène. Et petit à petit est née l'idée de fabriquer un drone aquatique qui viendrait nettoyer le bras de canal qu'on a juste en dessous de nous. Donc au Dôme, on fabrique de l'hydrogène, on a un démonstrateur qui permet de fabriquer de l'hydrogène et grâce à ces piles à combustible, on peut les mettre dans le drone, faire fonctionner le drone.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples ?
Oui, on peut aller le voir là-bas.
Ouais.
Je vous présente le Farmbot.
Vous appelez ça comment ?
Le Farmbot.
Alors, Farmbot, vu comme ça, on dirait une boîte en palette avec des plantes dedans et un peu de techno quand même. Il n'y a pas que des plantes.
C'est ça. C'est un robot potager qui va être capable de semer, d'arroser et de désherber tout seul. Donc, ça fonctionne un peu comme une imprimante 3D. On fonctionne en X, Y, Z, quoi. Et le robot, il est capable après de se souvenir qu'à tel endroit, il a tel type de plante qui nécessite tel type d'arrosage, etc. Il va pouvoir aller vérifier régulièrement si la terre est assez humide pour les plantes. Si ce n'est pas le cas, il va aller chercher des outils qui lui sont nécessaires pour arroser. Et enfin, si ça ne correspond pas à la plante qui est prévue, il va désherber, c'est-à-dire Lui, il ne sait pas enlever quelque chose, il sait par contre l'enfoncer dans le sol pour empêcher que la plante en question pousse. Voilà. Et donc ça, c'est un projet qu'on a développé avec l'aide des fonds européens d'ailleurs, et qui est maintenant diffusé sur toute la région de Normandie, notamment dans les lycées agricoles. Il y a beaucoup de lycées agricoles qui se sont emparés de cet outil-là, parce que c'est aussi un outil pédagogique. On fait un petit tour ?
Ouais, on peut faire un petit tour. Donc là, c'est marqué dessus, le Fab Lab.
Voilà, donc c'est un peu la pièce maîtresse du lieu, en tout cas celle qui est le plus incarnée, la plus facile à identifier par les publics. Un Fab Lab, c'est un atelier de prototypage rapide, donc c'est un lieu où il y a des machines à commande numérique qui sont regroupées, qui sont mises à disposition du public. On a été soutenu par la Fondation Orange Solidarité, ici, pour développer le Fab Lab, donc plusieurs programmes pendant de nombreuses années, donc ça a aidé à créer la dynamique. Donc très concrètement, ici, on peut venir de façon individuelle, en groupe, pour des raisons professionnelles ou personnelles, réaliser des objets ou participer à des projets collectifs qui sont mis en réseau au niveau international, parce que tous les Fab Labs sont reliés avec des dépôts de projets, de plans, de choses qu'on peut récupérer, etc. Donc on va y trouver tous les postes de travail qu'on voit dans tous les Fab Labs, c'est-à-dire là on entend imprimante 3D qui tourne. Nous on travaille beaucoup aussi avec le tissu par exemple, donc il y a des machines à coudre, des brodeuses, on a beaucoup de choses autour de l'électronique, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, parce qu'on intègre beaucoup d'électronique open source dans nos projets. Et puis on a les fameuses découpeuses laser qui sont peut-être les outils les plus efficaces dans un Fab Lab. Ce sont des outils qui permettent de graver ou de couper des matériaux de façon extrêmement rapide.
Donc là, on est rentré dans une autre pièce où les machines ont pris une autre ampleur, c'est un peu plus gros.
Oui, c'est ce que j'appelais au tout début la salle des machines dangereuses, donc ça dit bien ce que ça dit. Là, on peut se couper le bras beaucoup plus facilement. Donc c'est des machines qui sont vraiment sous contrôle d'usage avec le chef d'atelier. Et on a ici des grandes fraiseuses, donc on a une grosse fraiseuse 4 axes, une chopbot devant nous, qui permet de faire des meubles, qui permet de faire des choses beaucoup plus évoluées. On a aussi tous les matériaux qu'on trouve dans des ateliers importants. Et puis on est passé dans une zone de recyclage aussi, parce qu'on fait attention à ne pas produire de déchets plastiques. On produit des pièces en plastique avec l'impression 3D, mais on ne veut pas rejeter davantage de plastique. Donc ici, on fait participer les publics au fait de broyer les plastiques. On a la machine, c'est un truc avec un gouvernail. Il faut tourner le gouvernail et on a une petite broyeuse mécanique. Et on va par couleur remettre les plastiques, les refondre, refaire des plaques. D'accord. Et on a devant nous des plaques qui ont été refondues, par les publics d'ailleurs, en grande partie, et pour lesquelles on commence à définir des nouveaux usages. Donc là, il y a des objets qui sont en train de sortir, qui sont créés avec ces objets. Voilà, on s'aperçoit qu'on peut faire des formes, et donc on arrive à des objets qui deviennent très très concrets.
Un mi-chemin entre du Pollock et...
Ouais, c'est assez
c'est
marrant.
C'est très visuel, en fait.
Ouais. Ouais, c'est très très visuel, c'est très beau. Et puis on était récemment au FENO, la grande manifestation de la région. On a vu 8000 personnes, et les gens sont passionnés pour ça. Et on s'est dit, mais en fait, on pourrait faire des ateliers où on fabriquerait des boîtes à crayons, on a fabriqué des médiateurs pour les guitares. Là, on peut faire des tas de trucs avec ça. Donc c'est assez sympa. Et là, il y a des ateliers qui commencent à se créer autour des bijoux, faire des bijoux avec des objets comme ça, etc.
D'accord.
Et c'est aussi l'esprit d'un lieu comme celui-là, c'est de proposer des alternatives qui soient responsables. Et effectivement, on produit des objets plastiques. Il ne faut surtout pas qu'on rejette du plastique en plus. Ou du bois, c'est pareil, on réutilise le bois au maximum, tous les matériaux qui sont ici. Autour du dôme, il y a des établissements culturels partout, une école d'art, une salle de spectacle, un lieu sur l'interprétation de l'urbanisme et de l'architecture, une très belle bibliothèque, des fabriques artistiques. Donc on a la chance d'être entouré de tout ça. Et on a créé d'ailleurs une association, un pôle de coopération de toutes ces structures-là, pour que tous ces gens travaillent ensemble et que les publics se mélangent, qu'on puisse faire des projets ensemble et qu'on développe un quartier culturel sur la presqu'île de Caen.
Je suis tombé l'autre jour sur un article avec le projet Bulle.
Ouais.
Vous en faites partie du coup de cette...
Alors nous, on est très proche d'eux puisqu'on s'est retrouvé avec la Bulle dans le fameux pôle de coopération territoriale. Ils sont membres du bureau du conseil d'administration avec nous. Et eux, ils amènent toute la dimension économie sociale et solidaire qui complète complètement ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est super intéressant sur un territoire, c'est la complémentarité des acteurs. Il y a des zones de chevauchement quelquefois entre nous, mais la plupart du temps, il y a des gens qui vont pouvoir aller explorer quelque chose de beaucoup plus fort. Nous, on n'a pas tout le réseau des artisans, des producteurs, etc., qui va se retrouver dans la bulle. Mais évidemment, ils vont trouver dans ce lieu aussi une très forte complémentarité de ce qu'ils font.
En sortant du dôme, notre curiosité envers ce territoire en pleine mutation n'était, vous vous en doutez, que plus grande. Nous avions en effet envie d'en savoir un peu plus sur les nombreux acteurs impliqués concrètement sur l'agglomération et qui dessinent ensemble cette ville durable de demain. Aussi, nous avons profité d'un petit créneau de libre avant un rendez-vous prévu avec Nicolas Escache, adjoint à la ville durable de Caen, pour passer un coup de fil à Romuald Poretti, l'initiateur de la bulle dont nous venions de parler.
Je crois que vous êtes occupé d'un lieu qui est très connu des habitants du territoire pendant pas mal d'années.
Ouais, j'ai travaillé effectivement pendant 22 ans au Cinéma Luxe, qui est la salle à réessai de Caen. Alors je dirigeais pas la salle, hein, je m'occupais effectivement beaucoup de toutes les rencontres avec les réalisateurs, les réalisatrices, les soirées débats, les animations. Donc du coup j'étais souvent devant le public. J'ai développé un gros réseau à Caen à ce niveau-là. Et puis après, au bout de quelques années, au bout de 22 ans, on a envie d'évoluer, de changer, de faire des choses un peu différentes. Et puis c'est là qu'est née l'idée de la bulle. Caen et Caen la Mer ont pour vocation à mettre en place un éco-quartier qui s'appelle donc la presqu'île, enfin le nouveau bassin. C'est une zone d'activité concertée. Et nous, on est arrivé avec un collectif de citoyens en leur expliquant que voilà, on avait l'idée de mettre en place, de relocaliser de l'artisanat, de mettre en place des commerces en circuit court, des commerces de proximité, de réinstaller des bureaux, enfin autour de la transition écologique, en fait d'inscrire le quartier. De par son centre, hein, parce que l'idée c'est de créer le centre du quartier, un peu comme un centre-bourg, on va dire, puisque finalement l'éco-quartier, ça va être à terme, ça va quand même être plusieurs milliers d'habitants sur cet espace-là. Donc on propose, nous, de créer le centre du quartier, plutôt en tourné vers l'économie sociale et solidaire, sur des valeurs fortes, de proximité, de coopération économique, de réinventer en fait la ville de demain à partir de notre expérimentation de la bulle. C'est un peu ça l'idée.
Vous avez déjà un calendrier de réalisation? Est-ce que vous avez déjà identifié toutes les personnes et structures qui vont participer à cette bulle?
Alors on a identifié beaucoup de personnes. En fait, on a créé même un pôle territorial de coopération économique, donc un PTCE. Donc on a déjà pas mal d'acteurs qui sont à nos côtés, qui réfléchissent à la façon dont on peut le mettre en place. Et puis le calendrier de réalisation, c'est assez simple, hein, puisque les premières habitations vont arriver sur la zone du nouveau bassin en 2026. Donc nous, l'idée, c'est qu'on accompagne dès 2026 la construction de nouveaux espaces de la bulle, et qu'après, au fur et à mesure, on accompagne la création du quartier en développant nos activités en fonction aussi des besoins, parce que une des grosses particularités du projet, c'est qu'on s'appuie sur les besoins des citoyens. Donc on questionne beaucoup, notamment ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. C'est-à-dire c'est vraiment une vraie question pour nous. C'est-à-dire qu'il existe la maîtrise d'ouvrage, et ça c'est les donneurs d'ordre, la maîtrise d'œuvre, qui est ceux qui vont réaliser techniquement les bâtiments, construire. Et nous, on s'appuie aussi sur cette troisième maîtrise qui est un peu oubliée, la maîtrise d'usage, où effectivement en fait la bulle, elle est pensée à partir de l'expérience des citoyens, mais pas que, des professionnels, des élus, des discussions qu'on peut avoir, des concertations. Il y a vraiment l'idée de se dire comment on fait la ville de demain tous ensemble, en fait. Parce que c'est pas nous qui avons la solution tout seul dans notre coin.
Est-ce que vous permettez, on va dire, pour le dire assez facilement, une partie d'échec? Est-ce que tout sera modulable et pourra être amélioré?
Oui, je vois bien la problématique, effectivement, parce que quand on innove, on ne sait pas où on va, par principe. Donc c'est pour ça aussi qu'on a monté ce pôle de coopération économique, parce que l'idée, c'est de, pendant les 4 ans avant la construction, c'est qu'on innove sur des actions. Donc là, pour le coup, je parle pas d'urbanisme ou de construction, mais on innove sur des nouvelles pratiques de coopération économique entre des acteurs, en essayant de monter des nouvelles façons de faire sur tout un projet autour de la consommation responsable. On va avoir un projet de foncière immobilière qui va servir le lieu, mais pas que. On va avoir des modèles de coopération entre des ingénieurs sur la communauté d'énergie. En fait, on expérimente plein de choses en amont de façon à ne pas se tromper au moment où on va ouvrir. Après, il y a évidemment une part d'échec dans l'innovation. Et puis, là, pour répondre à la question sur l'urbanisme et effectivement la construction, c'est qu'on imagine, nous, un bâtiment ultra, ultra modulable. Mais ça, c'est moi, c'est mon obsession, c'est-à-dire que si on veut vraiment être dans une démarche environnementale, il faut que chaque mètre carré soit exploité au maximum. On peut pas construire des mètres carrés qui vont être laissés comme ça pendant des heures et des heures dans la journée à ne pas servir. Donc du coup, c'est comment on pense tous ces usages-là. On optimise les mètres carrés. Ça, c'est un peu mon obsession. Et les usages, donc, et les façons de faire. Enfin voilà. Donc oui, après on pourra s'adapter, hein, puisqu'on sait très bien. Et puis là, les deux dernières années nous ont bien prouvé qu'il fallait anticiper encore plus sur justement être adaptable et modulable, être agile. Hein, c'est un peu l'idée, quoi. Donc oui, ça fait partie de la démarche complètement.
Optimiser les mètres carrés et les usages, pour reprendre cette expression de Romuald Poretti, la ville de Caen l'expérimente justement depuis quelques semaines avec un nouveau type de mobilier urbain dénommé parklet, qui combine plusieurs usages en ville. C'est sur ce premier lieu d'expérimentation précisément que je retrouve Nicolas Escache, adjoint à la ville durable de Caen.
C'est pas forcément la meilleure période, qui fait un petit peu froid.
Oui, oui.
mais c'est vrai que c'est intéressant cette démarche de vous appelez ça comment, un parklet?
Un parklet, oui, tout à fait.
Il faut que vous puissiez décrire ce que c'est. Déjà, c'est en bois.
Oui, exactement. C'est un micro-espace public qui combine à la fois des stationnements vélos, trottinettes, avec des espaces de convivialité. Ici, on a des bancs, on a des tables, on a des espaces de végétalisation également. Et ça donne vraiment un nouveau visage à la place, puisque là, on a un espace un peu interstitiel entre deux voies, qui avait déjà des arbres qui étaient assez qualitatifs, un espace vert. Et donc ça restitue à cet espace finalement sa qualité de place publique. Et là on voit tout l'enjeu de ces espaces de la reconstruction. On a des oubliés qu'il faut réactiver, qu'il faut activer. Et le parklet va aider à cela. C'est une réalisation partenariale, puisque c'est un designer suédois de Stockholm qui a réalisé les plans. Il a développé des parklets dans les rues de la ville. Et la réalisation concrète s'est faite par les ateliers techniques, par un menuisier de la ville de Caen. Donc c'est une collaboration entre un designer suédois et un menuisier de la ville de Caen.
Mais est-ce que vous appelez ça une installation éphémère ou pas? Ou c'est finalement, est-ce que c'est pérenne?
Non, c'est justement pour ça que je parle d'une première en France. On a eu des parklets à Paris, à Lille. Mais ici, on a un parklet qui va être définitif. Alors même si le bois évolue, donc c'est un mobilier urbain par définition vivant. Il va forcément se dégrader avec le temps. Les usages vont aussi se préciser. C'est très modulable. Le designer l'a conçu comme une planche en bois avec des modules. Donc on peut très bien changer ces modules. On peut raccourcir ou rallonger la planche. Donc c'est vraiment un mobilier urbain qui va vivre et qui va évoluer en fonction des usages qui vont se préciser. Je vous donne un seul exemple. On a installé le parklet il y a maintenant une semaine et demie. Alors c'est pas la période la plus facile pour le faire vivre sur le plan convivialité parce qu'il fait un peu froid. Mais on a déjà des usages qui se sont précisés. On est à côté d'un arrêt de bus, par exemple. On avait imaginé, évidemment, l'été, pouvoir voir des habitants déjeuner ensemble, avoir des personnes qui s'arrêtent avec leur vélo, puis lisent. Mais on n'avait pas imaginé qu'il pouvait être un espace aussi ressource pour le bus. Pour attendre le bus, donc on a un espace de banc là qui accueille des habitants qui vont ensuite attendre leur transport. Et ça, c'est des usages qui se précisent au fur et à mesure et qui vont nous permettre aussi peut-être de conforter certains éléments en changeant les modules.
Et donc là, c'est le premier et vous en voyez déjà d'autres. Vous avez déjà ciblé des lieux.
On en a prévu déjà trois autres. On les installe pas tout d'un coup, puisqu'en justement à l'aune de cette expérience, on va pouvoir adapter les deux suivants. On a déjà des lieux qui sont pré-ciblés dans la ville, qui ont un peu la même configuration qu'ici. On est dans des espaces à chaque fois de la reconstruction, on a des espaces à proximité de commerces, de restaurants, des espaces aussi où il s'agit de révéler une place publique qui n'était pas forcément auparavant, donc d'utiliser un espace qui avait un potentiel mais qu'il faut activer. Et l'idée c'est que ça puisse aussi constituer une sorte de parcours, qu'on puisse aussi être à proximité d'espaces intéressants sur le plan pédestre, cyclable, parce que là on est sur un espace qui va être traversé par l'axe nord-sud cyclable. Donc c'est des espaces de stationnement vélo qui vont aussi être en appui d'axes importants sur le plan des mobilités douces.
La reconstruction, c'est une architecture qui a quand même été super bien pensée. Je sais que je ne vais pas prêcher un convaincu, mais en termes d'utilisation des espaces, etc. Avec votre casquette d'élu à la ville durable, quel est votre regard sur cette architecture? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu pour voilà, qu'est-ce que c'est que cette architecture de la reconstruction pour ceux qui ne sont pas normands?
Alors d'abord, je m'y suis intéressé pour deux raisons. Je considère que la transition, on ne peut pas l'appliquer partout de la même manière. Il faut pouvoir comprendre de manière fine l'histoire, la géographie, les ressources vivantes d'un territoire pour trouver les bons outils afin d'accélérer les transitions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je considère que la critique que l'on fait du modernisme fonctionnaliste, elle n'est pas forcément toujours fondée, et que dans ce modernisme, il y a des ressorts très forts de développement durable. On le voit ici dans ce qui nous entoure. D'abord, il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Et aujourd'hui, pour repenser la ville avec des nouveaux usages qui arrivent sur des configurations géographiques qui étaient prévues au départ pour du flux, notamment automobile, bah, ces espaces ils peuvent être utilisés dans des mutations vers des mobilités plus douces, cyclables, piétonnes. C'est aussi une période de l'urbanisme où on concevait l'arrivée de l'air, de la lumière, donc des éléments qui participent aussi aujourd'hui d'une réflexion sur la ville pour une meilleure santé publique, un urbanisme favorable à la santé, donc c'est des éléments qui sont importants pour ça. C'est des espaces aussi qui alternaient des constructions, mais des espaces verts, et ces espaces verts ils peuvent être mis en valeur à la fois comme espace public, comme espace multifonctionnel, comme espace de rencontre, mais aussi pour accentuer la végétalisation, pour créer une collaboration avec le vivant. Dans des espaces comme ça, on peut bien sûr rafraîchir la ville, on peut aussi prévoir du comestible, on peut prévoir des plantations qui vont rendre un certain nombre de services. Donc c'est des espaces verts qui aujourd'hui sont complètement au cœur d'une ville résiliente, d'une ville poreuse, de ce qu'on peut appeler aussi une ville éponge, hein, sur les questions d'inondation par exemple. Et aussi dans l'habitat, c'était des habitats qui étaient conçus avec une qualité de construction, une articulation, en l'occurrence à Caen, avec l'histoire de Caen, puisque la pierre a été réutilisée dans la reconstruction. On a mené ici dans ce quartier, sur le mandat précédent, c'est mon prédécesseur qui a mené ce travail, un travail POPAC avec des rénovations énergétiques importantes. Et on a des structures d'habitation qui permettent d'aller vers une exigence, une ambition énergétique.
Il y a un autre exploit que vous êtes en train d'accomplir collectivement, ça en fait pas très loin, c'est de l'autre côté de la gare avec tout un nouveau quartier.
La Presqu'île, oui.
La Presqu'Île. Il y a un projet, je crois, d'éco-quartier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la forme et peut-être vos attendus, en tout cas sur le papier déjà, d'un tel quartier?
D'abord, il faut, parce qu'on parle beaucoup de la reconstruction, il faut rappeler que la partie reconstruite de Caen est une partie seulement de la ville. Et que la force de la ville de Caen, c'est d'avoir des paysages urbains variés au fil des strates historiques. À chaque fois qu'il y a des urbanistes, des architectes qui viennent ici, ils constatent la richesse de cette ville, parce que tant sur le plan médiéval, sur le plan de la Renaissance, sur le plan du 18e, 19e, il y a une histoire très forte de Caen au 19e, l'histoire portuaire de la ville, la connexion avec la mer. Évidemment, au 20e, avec la reconstruction, on a un patrimoine qui s'est maintenu. Toute la ville n'a pas été détruite, loin de là, et qui est extrêmement riche. Et la reconstruction s'intègre dans ces strates et s'intègre dans ces lectures du paysage urbain qui sont multiformes. Effectivement, à Caen, on a un certain nombre de quartiers qui vont évoluer ces prochaines années, la Presqu'île en fait partie. On est sur un espace péricentral, on est vraiment à proximité directe de l'hypercentre, sur des friches industrielles. Donc on est vraiment complètement dans l'optique de construction, reconstruction de la ville sur elle-même et de ZAN, zéro artificialisation nette. Ce quartier, il a été pensé différemment de la manière dont on concevait l'urbanisme il y a quelques années, avec des mobilités douces qui sont facilitées. Le plan d'aménagement cyclable précède la construction, les constructions. Les stationnements sont concentrés sur des parkings en ouvrage, parkings silo, ce qui permet de dégager l'emprise publique. Donc on a des offsets, des espaces de voies intermédiaires pacifiées, avec des rencontres entre les modes et très peu de circulation automobile et pas de parking de surface. Ça change complètement aussi la physionomie du quartier et la manière de voir le quartier. Une connexion avec l'eau, on a de l'eau qui est omniprésente dans ce quartier, avec le canal qui mène à la mer, on est à 11 km de la mer, donc on peut y aller à pied, en vélo, avec l'espace de l'Orne, avec le canal de dérivation, avec des présences du vert, de la biodiversité au cœur même du quartier, puisque le cœur du quartier, l'espace public central, c'est un parc des rails. On trouve le végétal aussi sous des formes de cœur d'îlot vert, des jardins d'ales. On a une réflexion sur la mutualisation des espaces, c'est-à-dire que les parkings sont mutualisés. On a un certain nombre d'espaces aussi au sein des logements, au niveau du quartier, qui sont mutualisés. Et on a évidemment pensé le quartier dans des prévisions climatiques très, très fortement, puisqu'on est dans une zone où on a à la fois la question de la proximité du littoral et puis évidemment la présence de l'eau. Et ce quartier, il accepte l'eau, il s'adapte à la présence de l'eau avec une surélévation des bâtiments, avec une concentration des commerces sur les points hauts du quartier, avec des mesures aussi de précaution qui sont très larges par rapport aux prévisions du GIEC. Donc on conçoit aussi un quartier qui accepte l'eau, qui n'est pas dans un système de rétention, mais dans un système de résilience et de porosité pour pouvoir accepter l'eau et faire avec.
À Caen comme ailleurs, la désindustrialisation de notre pays a été pendant longtemps un véritable traumatisme et une plaie ouverte pour la population. Laissées en friche pendant plusieurs années, ces anciennes usines sont aujourd'hui perçues comme des opportunités pour imaginer collectivement de nouvelles formes d'urbanisme conçues en adéquation avec les enjeux environnementaux auxquels nous devons faire face. Direction Colombelle, à quelques kilomètres du centre-ville de Caen, pour découvrir l'un des derniers vestiges visibles de la SMN, la Société Métallurgique de Normandie.
J'avais un rendez-vous avec Ophélie.
Très bien. À quelle heure ?
45.
45, ok, très bien, je l'appelle.
Merci. Bonjour. Bonjour. Ophélie Desrolles, présidente du WIB.
On est dans un lieu qui est complètement atypique, qui a une histoire. Mm-hmm. Ici, c'était quoi avant, exactement ?
Alors, c'est l'ancien atelier électrique de la Société Métallurgique de Normandie qui a fermé ses portes en 1993-1994, qui a été quasiment rasé ou démonté dans son entièreté et ne sont restés que quelques vestiges, dont cet atelier électrique qui marque encore l'histoire de ce grand site industriel. Et pendant 25 ans, il a été en friche, délaissé, sans avenir, sans projet imaginé dans ce lieu-là. Et en 2016, on a créé le WIP pour justement imaginer à cet endroit-là un projet de tiers-lieu permettant de mixer des activités, mixer des publics, se réapproprier la façon dont on construisait collectivement le territoire.
Pour bien comprendre, et puis ça aider les personnes qui vont nous écouter, j'ai l'impression d'être en halle de gare presque, et dedans vous avez créé du coup des structures, c'est ça, un peu plus petites ?
Voilà, en fait ce sont deux nefs collées l'une à l'autre qui font 12 mètres de haut et quasiment 60 mètres de long. Il y a une grande nef unique qui fait 1100 mètres carrés, hein, ce qui nous permet d'accueillir plus de 1000 personnes sur nos événements.
D'où l'écho.
D'où l'écho, exactement, parce que c'est vitré par ailleurs. Et on a une plus petite nef où on a reconstitué une boîte dans la boîte dans laquelle vous allez trouver des bureaux, du coworking, des salles de réunion, de formation, un restaurant, des ateliers et où toutes les fonctions travail sont regroupées.
Ok. Est-ce que du coup on peut aller justement dans l'autre nef là
oui,
où il y a
bien sûr.
La structure ?
Ah, donc là, c'est les espaces de travail communs, le coworking. Donc il y a une trentaine de postes de travail ici. On en a d'autres à l'étage en plus. Et donc là, c'est des personnes qui travaillent dans plein de secteurs différents. On a un imprimeur, des architectes, des bureaux d'études thermiques. Et on a l'équipe du WIB qui travaille dans le champ culturel, de l'inclusion et du réemploi de matériaux.
D'accord. Arrivons sur le lieu. Donc oui, il y a cette grande cheminée qui est
un réfrigérant qui servait à refroidir
D'accord.
l'eau.
Et qui, du coup, a une trace industrielle. Et vous savez à peu près combien il y avait de personnes qui travaillaient sur ce site-là ?
Oui, aux grandes heures de la SMN, c'est-à-dire dans les années 70, il y avait entre 6000 et 7000 salariés sur site, plus les salariés de tous les sous-traitants. Et sans vouloir trop m'avancer, à la fermeture en 93, il y avait encore à peu près 2000 salariés.
Tout autour, c'est encore maintenant c'est vide. Enfin, il y a quelques friches. Est-ce que le lieu, ce lieu, a vocation à finalement être entouré dans quelques années d'habitations, d'autres entreprises, ou est-ce qu'il y a déjà des projets autour?
Oui, alors on a quand même beaucoup de bureaux et d'entrepôts d'activités tout autour, et à proximité immédiate, les terrains qui sont encore en friche vont accueillir d'ici quelques années des locaux d'activités complémentaires. Et de l'autre côté, il y a une ferme solaire qui était à son démarrage la plus grande ferme solaire en espace urbain au niveau national.
C'est des panneaux solaires, c'est
ça? Oui, c'est des panneaux solaires, exactement, parce que sur ce terrain-là, rien d'autre pouvait être construit que accueillir des structures légères.
À cause de pollution, tout ça, du sol?
Ouais, et du sol qui est en mauvais état, puisque cette usine de la Société Métallurgique de Normandie existait depuis presque une centaine d'années et avait été démolie deux fois lors des deux guerres mondiales.
Oui, parce que du coup, c'est une association?
C'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est une SIC. Donc les gens qui ont créé cette société sont des citoyens. Dans une société coopérative, on peut avoir des collectivités, des partenaires financiers, des entreprises, des utilisateurs et les équipes salariées qui sont sociétaires, coopérateurs. En l'occurrence, chez nous, l'ensemble, quasiment la majorité des sociétaires sont des citoyens soutien du projet, coworkers et les salariés de l'entreprise qui sont donc partie prenante du développement et de la stratégie de l'entreprise. Donc on n'a pas les collectivités au sein de cette société. Les collectivités, elles, se sont impliquées dans la réhabilitation du bâtiment au travers de la société d'aménagement Normandie Aménagement. Et donc ce bâtiment leur reviendra d'ici une vingtaine d'années lorsque la concession d'aménagement sera arrivée à son terme. Donc le bâtiment, d'une certaine façon, a été financé par Normandie Aménagement et les collectivités à différents échelons, hein, jusqu'à des financements européens. Mais c'est leur patrimoine, et puis c'est le patrimoine mémoriel de tout ce territoire. Et le WIP, lui, a investi dans le développement de l'activité et est aujourd'hui locataire du bâtiment.
Ce matin, donc j'étais au Dôme. Quelle est votre complémentarité? Quels sont peut-être les points que vous apportez de votre côté dans ces projets communs?
De territoire, dans ces projets communs, on est un lieu où le public se brasse. On apporte déjà un public, des usagers, des utilisateurs qui sont partie prenante ensuite, qui sont une base extrêmement forte de projets d'expérimentation où on va aller mélanger, là encore, une démarche scientifique avec une démarche journalistique, avec une démarche artistique, par exemple. Avec un public, avec des participants qui sont déjà là, qui sont en confiance. La deuxième chose qu'on apporte, c'est de la visibilité, de l'attractivité aussi, puisqu'on est quand même très repéré sur ce territoire-là et qu'on peut faire des expérimentations de très grande taille, à très grande échelle, puisque le bâtiment est grand, les espaces sont grands, et qu'on a un public important. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, je pense que ce qu'on apporte à ce genre d'expérimentation ou à ce genre de partenariat, c'est que on est une SIC montée par des citoyens, et donc on est extrêmement libre dans nos champs d'expérimentation. Donc nous, on assemble et on crée du dialogue entre plein de thématiques différentes, entre plein de partenaires différents. On est capable d'avoir une vision assez globale de la façon dont le territoire se conçoit et justement de créer des passerelles. Et comme on déploie déjà plein d'activités différentes, on est habitué à construire ces passerelles-là. Donc on apporte aussi cette agilité ou cette capacité d'innovation dans la façon de décloisonner les projets. Et c'est notamment là-dessus qu'on travaille beaucoup avec le Dôme.
Pour continuer notre découverte de l'agglomération de Caen, allons maintenant à Hérouville. Village jusqu'en 1957, ce territoire a accueilli dans les années 60 la construction d'une ville nouvelle, entraînant la multiplication par 13 en 20 ans de sa population, et devenant à la fin du XXe siècle la seconde ville du département. Avec une population jeune et des pôles économiques dynamiques, Hérouville est une ville en mouvement. Elle poursuit au quotidien avec ses habitants son développement afin de consolider l'idée de mieux vivre ensemble. Ce n'est donc pas un hasard si on y retrouve de beaux projets, à l'instar de la Smartphone Academy, une initiative répondant tout autant aux enjeux de développement durable que d'inclusion.
C'est raté.
Oui, j'étais à l'entrée.
Ah d'accord. Enchantée.
Également, enchantée.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Bon, entrez, je vous en prie.
Amina Borin, responsable administratrice de la Smartphone Academy.
Les travaux sont terminés ?
Oui. Enfin, en tout cas, oui. Vous avez dû remarquer, à l'extérieur, oui, il termine de... Voilà, les échafaudages, c'est une visite. Quand on est là, je vais faire le café après. Donc, nous, on a tout le rez-de-chaussée.
Ah ouais.
Donc, pareil, ils ont tout refait.
Et tous les locaux appartiennent du coup à la mairie ?
Le bâtiment, ouais, il appartient à la mairie. C'est un ancien lycée hôtelier ici, en fait, avant. Donc là, c'était le restaurant pédagogique, en fait.
Donc là, 2023 s'annonce bien, quoi. Vous allez pouvoir...
Déjà, on a récupéré nos locaux.
Ouais.
Déjà,
c'est une bonne chose.
Bon, j'ai pas encore Internet, mais ça arrive. mais sinon, oui, déjà, on a récupéré. On est mieux, on est quand même mieux, parce que vous avez vu, on a différentes salles. Donc là, on en est à la... formation micro-soudure, la deuxième partie en fait.
D'accord.
Autant la première semaine, ils apprennent à réparer les téléphones, donc ils apprennent en fait à démonter les écrans, les connecteurs de charge, les batteries, etc. pour apprendre à changer les composants. Autant là, ils sont sur la micro-soudure, donc là, ils vont travailler sur les cartes mères. Donc voilà. Et puis là, la première salle, c'est la salle de cours.
Il n'y a pas que de la pratique, il y a aussi un peu de théorie.
Ah oui, il y en a quand même un petit peu. Ouais. Parce qu'il faut qu'on leur explique certaines choses, il y a des choses à faire, à ne pas faire. D'accord. Puis après, on va dire que c'est quoi, 70% de pratique et 30% de théorie quand même. D'accord. Il en faut un petit peu.
Et c'est une formation qui est accessible facilement, d'un point de vue
coût.
Ouais.
Tout le monde peut s'inscrire.
D'accord.
Après, c'est les financements qui sont... ça dépendra du... Il y a des demandeurs d'emploi qui peuvent avoir... il peut y avoir des financements par le Pôle emploi.
Et vous avez été fondé quand exactement ?
2016, mais on en a fait pendant un an et demi avant. On était commerçants en fait. On avait plusieurs boutiques, dont un centre de réparation. Et en fait, mon mari s'est rendu compte que, bah, par exemple, pour partir en vacances ou quoi, on n'arrivait pas à recruter. Et en fait, on s'est rapproché d'un organisme de formation sur Trouville à l'époque. Et il a créé sa formation et il a dispensé dans cet organisme-là. Donc pendant un an et demi, il a fait ça.
Vous avez testé du coup le...
Et, voilà, et après, bah, on s'est rapproché de la région, enfin de la d'Hérouville, et puis on a créé le centre. Et puis...
Bonjour.
Ah bah c'est pour les pas de sucre ?
Non, sans sucre.
Non.
Bonjour.
Bonjour. Valentin.
Nicolas, enchanté.
Nicolas Borin, fondateur de la Smartphone AD.
Mais c'est marrant cette étagère avec tous ces téléphones. Mais donc là en fait, ils sont pas triés par pathologie.
Non. Ah non, pas du tout. Ah non,
pas du tout.
On a les cancéreux là-bas.
Là, on a la marque La Pomme.
D'accord, ouais.
Et après, le reste du monde.
D'accord.
Qui détermine en technique de démontage et de désassemblage.
Ah.
Pas par marque, en fait. On s'en fout de la marque, nous.
D'accord.
C'est que ici, la marque à la pomme, ça se dévisse.
Ouais.
Dans la grande majorité. Et le reste du monde, ça se décolle. Donc nous, on a besoin d'avoir, par exemple, Céline va avoir besoin de montrer comment se décolle un téléphone, qu'elle prenne un Sony, puisque l'arrière est collé, l'avant est collé, qu'elle prenne un Sony ou qu'elle prenne un Samsung, bah, la même chose, oui. Il faut décoller l'arrière.
D'accord. Bon,
donc en fait, vous en avez, il y avait à peu près 10 pièces qui sont communes, et puis après, il y en a quelques-unes qui ne vont pas forcément.
Et donc, dans votre formation, ils passent en revue chaque...
oui, pour cette semaine, par exemple, c'est le niveau 1 de micro-soudure. Donc, ils vont être amenés à enlever ça, ça ou ça comme composants, parce que c'est les plus grosses.
Ouais. Ça, c'est gros, ça ?
Bah oui, parce qu'après, il va falloir qu'ils enlèvent, vous voyez, les petits points qu'on voit là, mais celles-là, on ne les voit pas réellement à l'œil nu, il va falloir qu'on
aille... Donc, ça va de 5 mm à...
Ah ben là, on est en micron, là. Pour certaines, on est en 0, là, sur du petit micro.
Oui, assez loin pour taper dedans.
Ah ouais, c'est pour ça.
Mais sinon, tu l'as pas volé.
Non.
J'ai pas mal.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce qu'ils sont en train de...
La patience.
Céline, formatrice.
Patience, c'est la compétence numéro 1.
Ouais, ah ouais, la patience.
La dextérité,
c'est la numéro 2, mais la patience, c'est vraiment la 1.
Là, justement, sur les stagiaires, que des garçons, c'est toujours le cas ou
non.
Ça s'ouvre voilà.
Non. J'ai que les garçons. Des fois, j'ai 3-4 filles, il y a quand même beaucoup plus de garçons dans la base que de femmes. Mais non, c'est heureusement d'ailleurs. De base, il ne faut pas forcément... faut juste s'intéresser. Donc que ce soit un garçon ou une fille, si la personne s'intéresse vraiment, il n'y a pas de porte fermée.
Vous êtes en train de faire quoi là ?
C'est des boutons là, qu'on est en train de faire.
D'accord.
Donc j'ai essayé sur le premier là, j'ai plus ou moins réussi, celui-là il est réussi, je vais faire celui-là.
D'accord. Après, oui. Et vous avez l'un et l'autre des profils plutôt touche-à-tout ou...
Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de formation ?
La nouveauté, en fait, j'étais comptable avant et je suis un demandeur d'emploi et je voulais, comme j'étais déjà intéressé à tout ce qui était réparation de téléphone, j'ai voulu aller plus loin.
Et vous avez déjà un projet professionnel derrière la formation ?
Sûrement monter ma boîte.
D'accord.
Dans réparation de téléphone.
Ok. Et vous venez d'où ? Vous êtes du coin ou pas du tout ?
Je suis de Bolbec, en Haute-Normandie.
Ok. Ouais. Et vous, vous êtes...
Moi, je suis du Val d'Oise. Je suis déjà professionnel dans l'achat-revente de téléphone d'occasion.
D'accord.
Et du coup,
D'accord, plus monter en compétences.
Ouais.
Pour conclure ce premier épisode de Vendredi ou la Ville Durable en agglomération cannaise, nous avons rendez-vous à la Grange aux Livres d'Éperon avec Alice Dauvillier. Comme 22 autres collègues du département, Alice est conseillère numérique. Le Calvados s'est engagé depuis longtemps contre la fracture numérique. L'exemple le plus significatif étant sans doute depuis le début des années 2000 la création de Point Info 14, sorte de grand frère des antennes France Service actuelles. Depuis septembre 2021, 23 conseillers numériques initient gratuitement les Calvadosiens qui le souhaitent au numérique et à ses usages.
Bonjour.
Bonjour.
Pour l'atelier numérique.
Pour l'atelier numérique.
Ouais, je vais faire. Merci. Vous êtes élu ici peut-être ?
Oui. François Vunel.
D'accord.
Je suis conseiller municipal. Il avait été souhaité en début d'année de faire participer les conseillers numériques du département.
Le bâtiment a l'air tout rénové.
On a fêté les 10 ans de la rénovation
le
mois dernier, puisque c'était un des rares bâtiments restés debout et réhabilité complètement. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Grange aux Livres.
D'accord, comme ça, un petit clin d'œil au premier usage.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alice.
Du coup, aujourd'hui, vous voulez qu'on continue PowerPoint et Canva comme la semaine dernière ?
PowerPoint, je pense que c'est bon.
Et l'intérêt de cette boîte numérique, c'est que vous avez des contenus sur la musique, concernant la musique, la presse, la formation, les livres, les jeux vidéo, les films.
Je suis Alice Dauvillier, donc je suis conseillère numérique agent du département, un dispositif de l'État qui est ensuite porté par les structures dont le département pour moi.
Au niveau du Calvados, vous êtes toute une équipe.
Oui,
L'idée du coup, c'est de mailler
le
territoire, c'est ça ?
Oui, je peux vous montrer en vitesse. On est là. Donc en fin de compte, donc ça c'est le département du Calvados, on a 6 secteurs. Donc moi je suis sur le secteur Caen et Grande Agglomération. Donc le secteur vert, donc c'est tout celui-ci. Et ensuite, il y a d'autres équipes, vous voyez, selon les couleurs.
Selon les couleurs, ouais. D'accord.
Donc nous, on est 7 là, actuellement.
D'accord. Et donc là, on est à Éperon.
Oui.
Vous intervenez depuis septembre.
Oui.
C'est ça. Ouais. Est-ce que du coup, c'est aussi à vous d'aller, selon votre zone géographique, d'aller chercher les structures pour vous accueillir ?
Oui.
Ça fait partie de vos
missions ? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait une présentation à 14h30. Donc nous aussi, effectivement, on doit prospecter. C'est le terme qui est employé, même si ce n'est pas de la prospection commerciale. On prospecte et les structures dans lesquelles on peut intervenir plus tard. Donc ça peut être bibliothèque, médiathèque, mairie, comme ici. Ça peut être des associations. Il y a des structures qui viennent nous démarcher parce qu'ils ont connaissance de ce dispositif. Ou sinon, donc c'est à nous, dans les mairies, par exemple sur Perrier-sur-le-Dent, Saint-Aubin-d'Arquenay, etc. C'est nous qui avons prospecté. Quoi.
Depuis des années, moi j'entends le chiffre de 13 millions de Français, alors pas dans le Calvados, mais
au niveau national.
National. Est-ce que vous pensez que ce chiffre de 13 millions, on arrivera à le diminuer ?
Pas en 2 ans en tout cas. L'idée, c'est un idéal de qu'il n'y ait plus personne éloigné du numérique, mais on fait de l'initiation et de la sensibilisation. Donc après, les personnes, elles s'approprient ou pas ce qu'on leur propose déjà. Donc voilà, et puis il y a des personnes qui sont éloignées parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel, parce qu'elles ne maîtrisent pas forcément la langue. Il y a beaucoup de freins. Il y a des personnes aussi âgées ou des personnes sous tutelle, curatelle.
Et donc, pour revenir sur vos missions...
Alors là, on appelle ça des ateliers. Et puis aussi, on a... Alors, pas trop ici, mais on a aussi des permanences avec des rendez-vous individuels. Ça dure une heure, on n'est qu'avec l'usager. Enfin, on l'aide sur un point précis. Par exemple, elle n'arrive pas à mettre une application, son smartphone et la mémoire est pleine, il faut enlever les photos, les transférer sur le PC. C'est plein de choses, mais c'est vraiment pour qu'au quotidien, la personne, elle puisse utiliser ses outils. Et on travaille avec les outils des personnes. Donc, moi, j'ai un ordinateur et un smartphone, mais en individuel, la personne, si elle a un problème, c'est sur son ordinateur, ou sur son smartphone, et je ne fais pas à sa place. C'est elle qui manipule. Comme ça, plus elle va manipuler, plus elle va acquérir des automatismes, ce qui lui permettra aussi de pouvoir refaire aussi. Parce que si on fait à la place, la personne, elle mémorise moins. Et du coup, elle se repose souvent les mêmes questions, alors que quand elle le fait, elle a compris comment où cliquer, comment faire, comment valider, des choses comme ça.
Est-ce qu'il fallait faire un top 3 finalement de ouais. Les freins ?
Alors, c'est vrai que les mots de passe, c'est compliqué, et c'est vrai que les personnes sont vite perdues, ça les ennuie et ça les embête d'avoir tous ces mots de passe. On leur explique que c'est quand même pour la sécurité de leur boîte mail, des comptes bancaires et autres. Donc, la double authentification, vous savez, quand on reçoit un petit... Alors ça aussi, quand on reçoit, par exemple, un code de validation par SMS, les personnes, elles sont vite perdues parce qu'il faut naviguer entre le SMS et l'application ou le site Internet. Donc ça, c'est vite compliqué. Le vocabulaire, pour certains, c'est compliqué. Il y a beaucoup de termes anglais. Alors nous, on est imprégnés, donc on s'en rend pas compte. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, ou en tout cas à l'expliquer. L'évolution, les mises à jour récemment, il y a eu une mise à jour et le petit dessin du SMS a changé. Et j'ai eu plein de questions. Les personnes pensaient que c'était plus là pour écrire des SMS, alors qu'en fin de compte, ça n'a pas changé d'endroit. Mais ils pensaient que
repère visuel avait changé.
Ouais, voilà, le repère visuel avait changé. Et du coup, certains n'osaient pas y aller. Et du coup, ils ont dû attendre une séance avec moi pour me poser la question si c'était bien toujours le SMS. Donc, plein de petites choses qui peuvent vite... un petit grain de sable, et c'est vite compliqué. Après, j'ai pas compté si je suis dans le top 5 ou le top 10. Mais... et puis, il y a des personnes, c'est rébarbatif, c'est presque une contrainte d'aller sur Internet. Donc, ils ne le font pas avec gaieté de cœur. Ils le font, c'est imposé pour eux. Et on essaye aussi de leur expliquer qu'il n'y a pas que du négatif sur Internet, qu'on peut faire, aller voir des films et tout. Ça peut être sympa, ça peut être agréable. C'est pas que...
C'est pas que les impôts...
Oui, c'est ça. C'est pas que des sites sécurisés avec 40 000 mots de passe, des codes... Voilà. On essaye aussi de donner un aspect ou de rendre le numérique un peu plus sympa que des démarches administratives complexes.
Dans votre parcours, est-ce que vous étiez déjà en contact avec des publics avant
Oui, un petit peu, ouais.
En autre top 3, quelles seraient les qualités d'un bon conseiller numérique ?
Je dirais l'écoute, dans le sens que parfois il y a des personnes qui sont pas fragilisées, mais qui ont une vraie appréhension du numérique. Et d'écouter, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, parfois, alors sans faire du social ni du psychologique, hein, parce qu'on n'a pas le temps, mais de répondre un peu à leurs problématiques numériques de façon un peu plus arrondie, pas être trop scolaire, et essayer de prendre la personne dans sa globalité et de l'écouter, ce qui n'est pas toujours facile en une heure. On est un peu leur dernier recours au niveau numérique, donc ils nous voient comme un sauveur ou une sauveuse. Il y a aussi l'adaptabilité, parce que vous voyez, j'ai fait une présentation, après je fais un atelier, on a plusieurs casquettes. Et puis, il faut aussi être toujours au courant, donc une veille numérique, être souriant et puis mettre de côté aussi ses problèmes pour ne pas être envahi. Voilà, on a un public, les personnes, elles n'ont pas besoin de savoir si on va bien ou on ne va pas bien. Après, moi, j'essaye parfois de faire un peu d'humour, que ça ne soit pas trop scolaire non plus, ou un peu de légèreté. Après, ça fait partie de... Voilà. Mais il y a sûrement plein d'autres qualités plus sérieuses que ça.
Non, mais c'est déjà pas mal.
Voilà.
Ok, merci beaucoup.
Bah de rien.
Ce premier épisode de Vendredi ou la Ville Durable touche déjà à sa fin. Un grand merci, chères lectrices et chers lecteurs de Paroles d'Élu, de l'avoir écouté. Un grand merci également à toutes les personnes qui se sont impliquées dans sa réalisation et qui ont pris de leur temps pour répondre à toutes nos questions.